l'ultra foutage de gueule.
Une sale gaucher.
Oui, peut-être.
Je suis un rebelle officiel.
Vous êtes à côté, madame Blanc. On ne peut pas dire que vous cassez les gueules.
C'est fantastique.
C'est de la merde.
C'est énorme.
Comme ma bite.
Stop. L'humour a ses limites.
Aujourd'hui, on se penche de nouveau sur une vidéo de Histoire Crépue, la chaîne officielle de la pleurniche victimaire et des obsédés de la race, subventionnée par Nicolas. Leur spécialité ? Exploiter l'histoire et la mémoire et en faire un business, apparemment bien juteux. Quand je mate une de leurs vidéos, la seule question que je me pose est à quel moment la douille va arriver et à quel moment il va falloir sortir les mouchoirs. Leur thème du jour ? Peut-on faire du cosplay d'un personnage noir quand on est blanc ?
Question de merde.
Ils entrent directement dans le vif du sujet. Il faut sortir les mouchoirs dès le début de la vidéo.
Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le cosplay. Les cosplayers non blancs se font souvent attaquer pour leur couleur de peau, avec des commentaires qui tentent directement, ou même de façon implicite, de les décourager de la pratique.
Ouin ouin, les cosplayers noirs qui incarnent des personnages non noirs se prennent des remarques racistes.
Tel personnage n'est pas noir. C'est le cas typique de commentaires que reçoivent les cosplayers noirs lorsqu'ils incarnent des héros non noirs. Ce qui est un petit peu le comble hein, lorsqu'on sait qu'en convention, la plupart des personnages incarnés sont issus de mangas ou d'animés, et donc souvent asiatiques. Alors dans ce cas, ton cosplay de Sasuke dans Naruto, de Midoriya dans My Hero Academia, ou de Sephiroth dans Final Fantasy ne passe pas non plus, car ils ne sont pas blancs, désolé de vous l'annoncer.
Ce genre de conneries, c'est une autoproclamée spécialiste des jeux vidéo qui le dit. J'aimerais qu'elle m'explique où elle a déjà croisé un asiatique qui ressemble à ça ou ça. Non, un asiatique n'a pas les yeux qui font la moitié de son visage, ni les cheveux blonds ou les yeux verts. Le manga, c'est un style de dessin reconnaissable, c'est tout. Il cherche parfois à reproduire des phénotypes existants, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc non, les personnages de manga ne sont pas des asiatiques. Ce sont des personnages de manga, c'est tout.
Ça serait vraiment dommage d'en arriver à interdire aux gens de rendre hommage à leur héros, non ?
Bah clairement, car tout l'enjeu est de se faire plaisir à soi et aux autres fans, mais avec respect et intégrité.
Notez bien cette séquence. En gros, il nous explique qu'au final, la couleur de peau importe peu tant qu'on rend hommage avec respect et bienveillance.
J'ai envie de pleurer.
Mais voilà, on me la fait pas. Je connais par cœur les procédés manipulatoires de Histoire Crépue. Ils commencent souvent leurs vidéos par le principe de charité préalable, qui consiste à commencer par un constat plein de bon sens et fédérateur. Ici, le cosplay est une passion créative qui doit se faire dans le respect, peu importe la couleur de peau, pour installer une complicité avec le spectateur et désarmer la critique d'entrée de jeu. Le point de départ, un problème individuel et concret. Des cosplayers noirs qui subissent des insultes et des remarques racistes en ligne.
Le but du cosplay n'est pas d'incarner à tout prix un personnage jusqu'au moindre détail, d'autant que parfois, il s'agira d'interpréter des personnages totalement fantaisistes. On a rarement vu des personnes non blanches se grimer la peau pour ressembler à Piccolo et pourtant on identifie totalement le personnage.
Notez cette phrase complètement stupide. Soit ils sont malhonnêtes, soit ils n'ont rien compris au principe de se déguiser et d'incarner un personnage. Le principe premier de l'incarnation d'un personnage est que les gens reconnaissent le personnage. Si personne ne le reconnaît, c'est que votre costume est raté en fait. Et pour incarner un personnage, on chope tous les signes distinctifs qui permettent de l'identifier en un coup d'œil. Avec son style si particulier, Piccolo est facilement identifiable. Il est inutile de se peindre la peau en vert, sauf si on souhaite pousser le réalisme jusqu'au bout. Si je porte cette moustache là, il n'y a que deux possibilités, Hitler ou Chaplin. Mais si en même temps je porte cette coupe de cheveux là, vous aurez compris qui j'incarne. Pas besoin de la totale, l'uniforme et le brassard.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles.
Bref, c'est à ce moment-là que je me demande, quand est-ce que la douille va arriver ? Eh bien, elle arrive dans la séquence juste après avec le blackface. En fait, leur stratégie rhétorique est en trois temps, fondée sur le glissement idéologique et le double standard. Dans un premier temps, la façade universaliste. La vidéo s'ouvre sur un discours consensuel et fédérateur, selon lequel la passion n'a pas de couleur et seul le respect du personnage compte. Dans un deuxième temps, la préparation du terrain historique. Pour amorcer le basculement, la chaîne convoque d'abord les origines du blackface, les minstrel shows créés pour rabaisser les personnes noires, puis elle enchaîne sur les stéréotypes coloniaux dans la pop culture des années 80 et 90, la figure du sauvage, du cannibale ou les imageries publicitaires. Cette séquence historique sert à installer un climat de culpabilité et d'oppression. Dans un troisième temps, l'effacement de l'intentionnalité et le double standard. C'est ici que s'opère la douille argumentative. En appliquant la charge lourde de cette mémoire coloniale au cosplay contemporain, la chaîne décrète que la couleur de peau cesse soudainement d'être secondaire dès qu'un cosplayer blanc se maquille le visage en noir. L'intention artistique, rendre hommage à son héros préféré, est purement et simplement niée. Le geste devient raciste par essence. En écartant délibérément l'intentionnalité pour imposer une grille de lecture morale asymétrique, il transforme un acte d'admiration apolitique en un crime idéologique. Pour comprendre à quel point la suppression de l'intentionnalité est un double standard, prenons un cas réel. Le vidéaste tchèque Pippi Peter, il y a quelques années. Lorsqu'il s'est déguisé dans un sketch en 50 Cent avec la casquette, le débardeur et la grosse chaîne autour du cou, il s'est aussi peint la peau en noir. Il a été accusé de blackface et s'est pris une montagne de merde sur la tronche.
La tête dans un seau de merde.
Sa réponse en vidéo a été magistrale. Il a refait le même sketch avec la même tenue mais sans le maquillage. Résultat, tout le monde lui sortait des noms de rappeurs blancs. Cet exemple prouve une chose simple. Dans l'incarnation d'un personnage réel ou de fiction, la couleur de peau peut parfois être une composante visuelle d'identification. Refuser de voir ça, c'est faire preuve d'une mauvaise foi totale.
You're either crooked or you're stupid.
Cette histoire illustre parfaitement le fossé entre l'intention du créateur, c'est-à-dire rendre hommage ou incarner fidèlement une figure publique précise pour que le public la reconnaisse instantanément, et le procès d'intention fait par les détracteurs, c'est-à-dire plaquer une grille de lecture idéologique et attribuer des intentions racistes à quelqu'un qui cherchait simplement la précision dans son incarnation. Il y a une différence fondamentale entre se moquer d'un stéréotype et inciter à la haine raciale ou inférioriser un groupe. Dans la satire et la comédie classique, le principe du sketch à stéréotype repose sur l'accumulation de signes d'identification culturelle ou régionaux exagérés. Quand un humoriste caricature un Français avec son béret, sa baguette et sa marinière, un Russe avec sa chapka et sa vodka, ou un Jamaïcain avec ses dreadlocks et son joint, il manipule un assemblage de clichés de la culture pop. La cible de la caricature, c'est l'image d'Épinal, le cliché folklorique ou la représentation collective que les gens ont en tête. L'intention n'est pas d'affirmer une supériorité biologique ou raciale, mais de jouer avec un imaginaire partagé. Pourquoi le dogme d'Histoire Crépue refuse-t-il cette distinction ? C'est là que le contraste avec la logique d'Histoire Crépue devient saisissant. Pour le militantisme décolonial, toute utilisation du maquillage sombre est immédiatement rattachée au blackface du 19e siècle, c'est-à-dire à un acte d'infériorisation systématique. Ils appliquent une grille d'analyse unique et rigide. Si tu te peins le visage en noir pour faire rire, c'est obligatoirement que tu considères les noirs comme inférieurs. Un comédien qui utilise des stéréotypes jamaïcains traite ce personnage de la même manière qu'il traite le cliché du français à baguette. La couleur de peau est alors traitée comme un marqueur visuel parmi tant d'autres dans la panoplie du costume, et non comme le sujet d'une hiérarchie raciale. Quand un humoriste caricature des nationalités en appuyant sur les clichés, la cible de la moquerie n'est pas l'humanité d'un groupe humain, mais le stéréotype en lui-même. On accepte la caricature vestimentaire ou linguistique pour certains peuples, mais Histoire Crépue décrète arbitrairement qu'un seul élément visuel, le maquillage, extrait automatiquement la séquence de la comédie pour la transformer en acte d'oppression coloniale.
Faut arrêter en fait de nous prendre pour des imbéciles.
C'est refuser de faire la différence entre se moquer d'un cliché et promouvoir le racisme.
Pour les communautés noires en France comme partout dans le monde, le blackface est une blessure ouverte car il rappelle que leur peau reste perçue par certains comme un costume de scène.
Leur peau est perçue comme un costume. C'est une jolie formule pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est intellectuellement faux. Un cosplayer ne se déguise pas en noir. Il se déguise en un personnage précis. Prétendre qu'imiter un teint revient à voler une identité ou à transformer une peau en costume, c'est confondre volontairement un outil de maquillage avec une attaque personnelle. Quand un acteur met du maquillage pour paraître vieux, il ne perçoit pas la vieillesse comme un costume, il le fait pour des raisons artistiques. Dire que le maquillage équivaut à réduire la peau de quelqu'un à un costume, c'est refuser de faire la différence entre l'être humain réel et la représentation artistique. L'expression « blessure ouverte » est utilisée pour bloquer tout débat rationnel. En plaçant le sujet sur le terrain du traumatisme émotionnel sacré, la chaîne cherche à rendre toute objection impossible.
Si tu remets ça en question, tu réouvres une blessure, ouin ouin.
C'est une stratégie de culpabilisation pour empêcher de poser des questions logiques.
En France, les polémiques régulières autour de personnalités comme Antoine Griezmann se grimant le visage pour faire rire montrent que le poids de l'histoire coloniale est encore très mal compris. Donc voir une personne blanche adopter les traits d'une minorité le temps d'une convention pour ensuite retrouver tous ses privilèges sociétaux une fois le maquillage lavé, tout ça c'est d'une profonde violence.
L'affirmation selon laquelle il y aurait des polémiques régulières est une déformation des faits. L'affaire Griezmann, qui remonte à 2017, est ressortie en boucle précisément parce que ce genre de cas est extrêmement rare. En faisant croire que la France est le théâtre d'une vague ininterrompue de blackface, la chaîne crée un sentiment d'urgence morale et de menace permanente. Présenter le poids de l'histoire coloniale comme un fait établi, c'est faire de la pseudo-sociologie. Un fait, c'est une donnée vérifiable. L'idée qu'une personne vivant en France en 2026 porterait sur ses épaules une blessure coloniale à la vue d'un footballeur en tenue des Harlem Globetrotters est une interprétation politique, pas une réalité biologique ou psychologique universelle. En prétendant que toutes les personnes racisées souffrent inconsciemment de ce poids, ils refusent aux individus le droit de s'en foutre, de trouver ça drôle, ou d'y voir simplement un hommage à une équipe de basket de légende. Ils imposent le statut de victime à tout un groupe. Antoine Griezmann a fait ce déguisement par admiration pure pour le basket américain des années 80 et les Harlem Globetrotters. Ça va pas chercher plus loin en fait. C'est pas l'histoire coloniale qui a été mal comprise, c'est la démarche de Griezmann qui a été récupérée pour alimenter un discours politique militant. On a transformé l'hommage sincère d'un fan de sport en un acte d'oppression coloniale, simplement pour faire coller la réalité à leur grille de lecture. Retrouver ses privilèges une fois le maquillage lavé? Oh putain, mais bordel, de quoi elle parle? Pour la chaîne, la seule grille de lecture qui existe au monde, c'est la race. Ils oublient juste un détail. Le seul vrai privilège qu'Antoine Griezmann retrouve en se lavant le visage, c'est celui d'être un footballeur millionnaire adoré par des millions de fans. Un privilège qu'il partage au centime près avec ses coéquipiers noirs de l'équipe de France. Mais parler de privilèges financiers ou de classe, ça vend beaucoup moins. C'est tellement plus pratique de transformer de la peinture à l'eau en profonde violence pour entretenir un fonds de commerce.
Vous êtes de vrais hypocrites.
La cosplayeuse Liv Van Aert est devenue championne de France de cosplay en 2019 via son cosplay du personnage de League of Legends Pyke, qui est un personnage noir. Après avoir été qualifiée, elle devait ensuite représenter son pays à un concours européen, l'Eurocosplay, dont la finale s'est déroulée à Londres cette année-là, mais a finalement été disqualifiée par les organisateurs car accusée d'avoir fait un blackface.
En effet, pour réaliser son costume, Liv Van Aert avait utilisé des prothèses intégrant la couleur de peau du personnage afin de lui ressembler autant que possible. Mais pour les cosplayers noirs, ça a créé un gros malaise.
Leur deuxième exemple atteint des sommets de malhonnêteté intellectuelle. C'est l'histoire de Liv Van Aert, une cosplayeuse professionnelle qui a gagné le championnat de France de cosplay en incarnant Spike, un personnage présenté comme noir dans League of Legends. En tant que professionnelle, il était donc logique qu'elle pousse le réalisme jusqu'à porter des prothèses de la même couleur de peau que le personnage. Sauf que voilà, elle a été disqualifiée au championnat du monde pour cause de blackface. La conclusion de Histoire Crépue en sous-texte, c'est que la France ayant laissé passer cet odieux affront raciste, ce serait une preuve du racisme systémique en France, ou au minimum un défaut de prise de conscience.
Dehors !
Ouais, ou alors, si le public et le jury français n'y ont vu aucun problème, c'est peut-être parce que la France a jugé le talent et l'intention plutôt que de placer des grilles de lecture communautaristes américaines. Je dis ça, je dis rien.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Notez l'hypocrisie. Quand c'est un noir qui incarne un personnage de manga à la peau claire, c'est de l'art. Quand c'est un cosplayer blanc qui incarne un personnage noir en respectant la couleur du personnage, c'est du blackface, du racisme et de la violence symbolique.
Quand est-ce qu'on va se décider à la virer, cette négresse?
De toute façon, avec eux, c'est pile je gagne, face tu perds. Un cosplayer blanc n'a que deux options face à un personnage noir. S'il ne modifie pas la couleur de sa peau, il prend le risque d'être accusé de whitewashing ou d'irrespect de l'œuvre originale. Et s'il le fait avec des prothèses ou du maquillage, il est accusé de blackface. Résultat, les artistes blancs ont juste l'interdiction de représenter des personnages noirs en fait. Ce sont donc les militants d'Histoire Crépue qui réintroduisent une forme de ségrégation dans l'art et le cosplay en assignant chaque artiste à la couleur de sa propre peau.
Vous n'avez aucune limite, aucune décence.
La cosplayeuse avait jugé la décision de l'organisation du concours injuste en expliquant que, et je cite ses propos rapportés par Radio France, « Les conventions sont en train de rendre la participation beaucoup moins libre avec ces bêtises de blackface. Bouh, pas gentil les organisateurs !»
Regarder ces trous du cul ironiser comme des enfants et se réjouir que le fruit d'une passion et de centaines d'heures de travail acharné d'une femme qui en dépend pour vivre soit réduit à néant à cause de névrosés de la race finit à la piste de chameau.
Eh, hey, mais c'est les minables !
Après avoir tenu un discours hyper exclusif et clivant sur la race, la chaîne introduit la question du poids pour réinstaurer de la sympathie.
Faut savoir que le racisme et la grossophobie sont omniprésents dans le monde du cosplay. Si vous faites plus de 100 kilos, vous seriez obligé de ne faire que des cosplays de Gragas dans League of Legends, Bob et son ventre en béton armé dans Tekken, ou encore Fat Princess, pas ouf non.
Et si vous ne faites pas 2m40, vous ne pouvez absolument pas faire le cosplay de Kratos dans God of War apparemment. Bon, vous voyez un petit peu l'absurdité de ces injonctions qui se traduisent par des commentaires haineux, répétitifs, et qui parfois mènent à du cyberharcèlement.
C'est du ratissage large. En se posant en défenseur des personnes victimes de grossophobie, ils essaient de redorer leur blason et de passer pour des défenseurs universels de la tolérance. Histoire crépue fait de l'ironie sur les moqueries reçues par les gros lorsqu'ils choisissent d'incarner des personnages à la corpulence standard. Ils nous expliquent que si les gros n'avaient le droit d'incarner que les personnages gros, leur choix serait très limité. Première hypocrisie, ce qu'ils ne disent pas c'est qu'un maigre qui incarnerait Kratos serait tout autant moqué qu'un gros. Ce qui est moqué, c'est le décalage entre le personnage et celui qu'il incarne, pas tout un groupe social. Mais comme la grille de lecture de la chaîne repose sur l'oppression catégorielle, ils doivent absolument présenter cela comme une discrimination ciblée pour l'ajouter à leur catalogue des luttes. Et comme les maigres n'ont pas leur carte de membre dans la team oppressée, ils ne choisissent d'évoquer que le cas des personnes en surpoids. De plus, le culot de la meuf est incroyable. La meuf ose nous sortir. Vous voyez un peu l'absurdité de ces injonctions qui se traduisent par des commentaires haineux. Alors que 2 minutes avant, elle expliquait que Liv Hannart aurait dû ne pas utiliser de prothèse teinte noire parce qu'elle savait les risques, et que depuis le début de la vidéo, elle nous explique ce que les blancs sont autorisés à faire ou pas, selon leurs propres critères moraux et militants.
Alors pourquoi est-ce que satisfaire son ego en faisant du blackface est-il souvent bien plus important que de blesser et offenser ses communautés ? Disons les choses, le blackface n'est pas apparu en 2019, encore moins dans le monde du cosplay. Il y avait de grandes chances pour que Liv Hannart connaisse les risques, mais décide malgré tout d'incarner Pike en colorant ses prothèses. Alors peut-être qu'elle a décidé tout simplement d'ignorer les avertissements, mais elle a finalement été récompensée en gagnant le championnat de France de cosplay.
Ce qui nous mène à une question légitime. Comment faire pour ne pas manquer de respect ou heurter lorsqu'on veut faire du cosplay d'un personnage à la peau sombre ?
Bah déjà, en laissant tomber le réflexe de la ressemblance à tout prix. On peut très bien comprendre votre cosplay de Canary dans Hunter x Hunter sans blackface. Et même si vous ne lui ressemblez pas complètement, vous lui rendez hommage avec respect, et c'est ça qui est plus important.
C'est du pur foutage de gueule. Ce qui dénonce chez les trolls d'internet, vouloir régenter qui a le droit de faire quel cosplay selon son physique, c'est exactement ce qu'ils font eux-mêmes sur le plan racial. Les militants d'Histoire Crépue deviennent les gardiens du temple qui prétendent combattre. Ils interdisent aux créateurs de dépasser les frontières de leur propre corps, sauf quand cela arrange leur récit politique. Au final, la véritable ironie de l'histoire est là. Alors que le cosplay a toujours été un espace de liberté, de création et de rassemblement apolitique autour d'une passion commune, ce sont ces prétendus antiracistes qui réintroduisent une logique de ségrégation. En interdisant aux artistes de sortir de leur propre miroir, ils ne combattent pas le racisme. Ils transforment la pop culture en un champ de bataille idéologique où la couleur de peau prime sur le talent. En fait, c'est toujours la même chose avec ces gens-là. Ils adaptent leur lecture de la société en fonction de ce qui les arrange. Quand c'est à leur avantage, ils adoptent une lecture rationnelle et bienveillante, et quand c'est à leur désavantage, ils adoptent une lecture racialiste militante. Rappelez-vous quand ils chialaient parce qu'il n'y avait pas assez de noirs parmi les personnages principaux de Clair-Obscur, et encore moins dans l'équipe de développeurs. Ces gens prétendent parler au nom des noirs, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes, et pire, ils nourrissent les clichés négatifs sur les noirs, toujours à se victimiser, à pleurnicher, incapable de la moindre remise en question, manipulateur et rempli de haine. I'm sorry.